Merci d'écouter RFI. Il est 9h à Washington, 13h en temps universel et 15h ici à Paris. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. Dans quelques minutes, gros plan sur l'un des thèmes majeurs de la campagne électorale aux États-Unis, l'avortement, mis en avant par les démocrates, très délicat pour Donald Trump. Décryptage avec notre invité juste après le journal. Nous vous emmènerons également en Bolivie et puis, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. À la veille de la reprise des négociations en Martinique, le leader de la contestation répète, Benoît Ferrand, que les prix doivent baisser pour tous les produits alimentaires.
Invité ce matin de la première Martinique, Rodrigue Petitot persiste et signe. En effet, on nous dit que c'est impossible, mais impossible n'est pas français, dit-il. Nous entendrons tout à l'heure le leader du RPRAC.
À tout à l'heure. Et tout de suite, donc, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour.
Les nouvelles menaces du Hezbollah.
Le Hezbollah qui menace Israël de nouvelles attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban. Hier soir, une frappe de drone contre une position militaire au sud d'Haïfa en Israël a tué 4 soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes. Le chef d'état-major de l'armée israélienne s'est rendu sur place ce matin. Il a reconnu que cette attaque était douloureuse. L'Union européenne, elle, condamne les attaques de l'armée israélienne contre la FINUL, la force de l'ONU, dans le sud du Liban. Les ministres des Affaires étrangères des 27 sont réunis actuellement à Luxembourg. Lui aussi présent, Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.
In the Middle East, the situation is becoming worse, worse and worse.
Au Moyen-Orient, la situation s'aggrave de plus en plus. Hier soir, après des heures de discussion, les 27 pays de l'UE ont tous apporté leur soutien à la FINUL. Les 27 membres se sont mis d'accord pour demander à Israël de cesser d'attaquer la FINUL. De nombreux pays européens participent à cette mission. Leur travail est très important. Il est totalement inacceptable d'attaquer les troupes des Nations Unies.
It's completely unacceptable attacking United Nations troops.
Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, au micro de Julien Chavannes. La Chine a déployé ce matin des avions et des navires de guerre pour encercler Taïwan dans le cadre de manœuvres militaires présentées, je cite, comme un sérieux avertissement aux autorités de l'île. La Chine, qui d'après Taïwan a engagé quelques 125 avions, déclare qu'elle a maintenant mené avec succès ces exercices. Réaction américaine, les États-Unis ont dénoncé des opérations injustifiées constituant un risque d'escalade. L'Union européenne, elle, a appelé toutes les parties à la retenue. Donald Trump serait-il trop vieux ? C'est en tout cas le message qu'a cherché à faire passer son adversaire Kamala Harris. C'était hier soir lors d'un meeting à Greenville, en Caroline du Nord. Le lieu choisi n'était pas anodin. Greenville se trouve dans la Black Belt, cette région du Sud qui compte une importante population afro-américaine. Cet électorat vote majoritairement démocrate, avec toutefois un écart qui se resserre d'élection en élection. Pour les démocrates afro-américains présents à ce meeting, en tout cas, la victoire ne fait aucun doute. Reportage d'Edouard Maille.
Reginald Barrett se dirige vers les gradins avec son fils dans ce gymnase rempli. L'enseignant est confiant d'une victoire démocrate.
Je suis très optimiste. On va réussir à gagner en encourageant chaque électeur à aller voter en novembre. L'Amérique est à un stade critique et on ne peut pas laisser des idées misogynes nous empêcher d'aller de l'avant. C'est l'heure du changement.
Des démocrates craignent que certains hommes afro-américains soient plus réticents à voter pour une femme, ce que réfute l'étudiant KJ Chadwick.
C'est très important de venir à des événements comme celui-ci pour comprendre qu'une personne est plus compétente qu'une autre pour faire ce travail. Peu importe le genre de la personne, s'ils sont capables de faire le travail, ils méritent de recevoir des votes.
Son chapeau de cow-boy à paillettes sur la tête, Diane pense que l'éducation des électeurs est essentielle.
J'ai eu des discussions avec des jeunes hommes noirs pour essayer de rectifier toute la désinformation et la propagande que l'on peut voir. Et la priorité, c'est de les détourner de Fox News.
En 2020, Joe Biden avait obtenu les voix de près de 90% des Afro-Américains. Mais le dernier sondage du New York Times indique un chiffre désormais de seulement 78%, tandis que Donald Trump, lui, continue de grappiller des voix. Edouard Maille, Greenville, en Caroline du Nord, RFI.
Le Brésil n'en finit pas avec les phénomènes météo extrêmes.
Oui, ce week-end, plusieurs États brésiliens ont subi des pluies diluviennes et des vents violents qui ont fait au moins 8 morts. Une dépression s'est abattue sur le pays après une sécheresse record, Stéphanie Schuller.
167 jours sans une goutte qui tombe du ciel. Le Brésil vient de traverser la pire sécheresse depuis que les précipitations sont mesurées. Le retour de la pluie aurait donc dû être une source de joie pour les Brésiliens. Mais ce sont des pluies torrentielles, accompagnées de vents de plus de 100 km/h, qui se sont abattues sur le centre et le sud-est du pays ce week-end. Dans la capitale Brasilia, ces intempéries ont fait de nombreux dégâts, tout comme dans la mégapole São Paulo, où près d'un million de foyers étaient toujours sans électricité ce dimanche. Les scientifiques sont unanimes, ces extrêmes météorologiques sont directement imputables au changement climatique causé par l'homme. La grave sécheresse qu'a traversé le Brésil a alimenté des incendies qui ravagent depuis des mois la forêt amazonienne, la savane du Cerrado jusqu'aux zones humides du Pantanal. Selon les météorologues, les intempéries devraient se poursuivre en ce début de semaine, mais sans pour l'instant apporter un soulagement aux régions brésiliennes en proie aux flammes.
Stéphanie Schuller du service environnement.
En France, 19 personnes comparaissent pour maltraitance d'enfants.
Pendant plusieurs années, des dizaines d'enfants ont été placés dans des familles d'accueil qui n'avaient pas l'agrément et certains d'entre eux auraient subi des violences. Cette affaire est jugée à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Châteauroux dans le centre de la France. Valérie Cohen.
De 2010 à 2017, des dizaines d'enfants ont été confiés par l'aide sociale à l'enfance du département du Nord à deux associations non agréées, moyennant 630 000 euros d'indemnité. Elles étaient chargées de trouver à ces mineurs des familles d'accueil pour des séjours dits de rupture, à la campagne par exemple, afin de les extraire d'un environnement problématique. Les jeunes ont été envoyés dans le centre de la France, dans des familles qui n'étaient elles non plus pas agréées. Pire, une vingtaine d'enfants racontent avoir été victimes de violences diverses, sévices, surdosage médicamenteux, travail forcé ou encore humiliation régulière. Au procès, 19 personnes sont appelées à comparaître, entre autres pour violences, travail dissimulé, accueil de mineurs sans déclaration préalable. Les parties civiles dénoncent l'absence, parmi les prévenus, de responsables de l'aide sociale à l'enfance du Nord, qui dépend du département. Le procès mettra peut-être en lumière la crise traversée par les services de protection de l'enfance, en particulier dans certains territoires comme le nord de la France.
Également dans l'actualité judiciaire en France, la suite du procès des emplois fictifs au Parlement européen. C'est aujourd'hui que Marine Le Pen se retrouve face à ses juges dans cette affaire qui pourrait lui valoir l'inéligibilité. La saison des Nobel se termine avec le prix d'économie distingué remis à trois économistes, l'américano-turque Daron Acemoglu, les britanniques Simon Johnson et James Robinson. Ils sont récompensés pour leur recherche sur la compréhension des différences de prospérité entre les nations.
Et on termine ce journal en musique.
Avec l'inépuisable French Touch qui a fait le tour du monde. L'un de ses groupes les plus déconcertants, paraît-il. Rhinocéros Rose, comme la fleur, revient avec un 7e album. Le duo venu de Montpellier, Olivier Roger, doit sa réputation à ce mélange brillant pop électro.
Patou Carrier et Jean-Philippe Freux n'ont pas oublié qu'avant de devenir des bêtes de scène, plus de 1000 concerts à leur actif et des légendes de la French Touch, ils étudiaient la psychologie. La quasi-totalité des 12 pistes de leur nouvel album, Psychoanalysis, autrement dit psychanalyse, font référence à des affections ou des troubles mentaux, addiction, bipolarité ou comme ici, burn-out. Figure de la French Touch dans les années 90, le duo montpelliérain a toujours cultivé sa différence, mariant avec bonheur électro, dance et rock, ce qui lui a parfois valu d'être regardé de haut par les puristes. Mais le succès des années 2000 a placé Rhinocéros dans la catégorie des pachydermes de l'industrie musicale française, section exportation. Psychoanalysis est le 7e album du duo. Moins rock qu'autrefois, le groupe n'a rien perdu de son inventivité, que ce soit dans les beats et les programmations électroniques ou dans les guitares scintillantes. Rhinocéros a reçu pour l'occasion l'appui du beatmaker Vincent Leibovitz et du chanteur Benjamin Diamond.
Psychoanalysis, c'est donc le dernier album du groupe Rhinocéros. Anne.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent tout à l'heure pour un prochain journal. Et nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Nous vous proposons aujourd'hui, comme chaque semaine jusqu'à l'élection présidentielle aux États-Unis, de revenir avec un ou une invitée sur l'un des thèmes centraux de la campagne. La semaine dernière, nous vous parlions de l'immigration et aujourd'hui, on va se pencher sur l'avortement. Nous recevons Ludivine Gilly, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez écrit « La révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie », paru il y a 2 ans aux éditions de l'Aube. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Il y a un peu plus de 2 ans, la très conservatrice Cour suprême revenait sur le droit fédéral à l'avortement en renversant l'arrêt Roe v. Wade et en adoptant à la place un autre arrêt, Dobbs. Aujourd'hui, 13 États interdisent l'avortement dans presque toutes les circonstances. 4 l'interdisent à partir de 6 semaines de grossesse, donc à un stade où la plupart des femmes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Et 4 l'interdisent jusqu'à une période qui va de 12 à 18 semaines de grossesse. Je rappelle qu'une grossesse menée à terme dure entre 40 et 41 semaines selon les modes de calcul. Quelle est la situation aujourd'hui dans ces États? Que font les femmes qui souhaitent avorter, Ludivine Gilly?
Les femmes qui souhaitent avorter dans ces États se retrouvent dans une situation très difficile, d'autant plus que la plupart de celles qui se retrouvent dans une situation la plus difficile sont celles qui sont soit qui font partie des minorités raciales ou alors qui font partie des populations les plus pauvres. Car dans le cadre, lorsque ces femmes se retrouvent en difficulté, une solution pour régler le problème, c'est de se déplacer, et c'est-à-dire de se rendre dans un État dans lequel le droit à l'avortement subsiste. Or, comme vous l'avez indiqué, alors il y a 14 États dans lesquels l'avortement est quasiment totalement interdit, et ces États se trouvent pour beaucoup à proximité les uns des autres. Et la conséquence pour les femmes qui souhaitent avorter et se retrouvent dans un de ces états-là, c'est que même si elles souhaitent aller dans un état où c'est autorisé, ça peut être très difficile sur le plan pratique. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent et donc c'est très difficile d'y parvenir.
Alors voilà pour les états qui ont durci la législation. Il y a aussi des états qui ont fait l'inverse et qui au contraire ont renforcé ce droit à l'avortement.
Tout à fait. Notamment à la suite de la décision Dobbs de la Cour suprême, dans certains États, il a été décidé de constitutionnaliser le droit à l'avortement. La décision de la Cour suprême a consisté à le déconstitutionnaliser au niveau fédéral, en laissant la main aux États. Et donc certains États, ça a été le cas dans le Michigan, en Californie ou dans le Vermont en 2022, ça a été le cas dans l'Ohio en 2023, ces États-là ont décidé d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.
Et alors, puisque vous nous parlez de l'Ohio, il faut rappeler que c'est un État républicain dans lequel Donald Trump était arrivé largement en tête en 2020. Est-ce que ça veut dire... Donc là, il y avait eu un référendum dans l'Ohio. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décalage entre les positions des candidats et des responsables républicains et la population des États-Unis sur cette question de l'avortement?
Sur cette question-là, tout à fait. C'est devenu une question, un sujet perdant pour les républicains parce que le fait que dans de nombreux États, l'avortement soit quasiment totalement interdit va beaucoup plus loin que ce que souhaiterait y compris une partie des républicains. Et donc, lorsque la question est mise au vote, c'est systématiquement ce qui s'est produit depuis 2022, que ce soit dans certains États pour interdire ou pour autoriser ou constitutionnaliser le droit à l'avortement, c'est toujours la position qui consistait à protéger le droit à l'avortement qui l'a emporté.
Alors vous nous le disiez, le sujet devient assez glissant pour les républicains. Je vous propose d'écouter Donald Trump qui lui reste assez flou en fin de compte, comme par exemple dans cette déclaration en conférence de presse il y a 2 mois à Palm Beach.
Ces questions ont été portées devant les États maintenant. Comme Ronald Reagan, je crois aux exceptions dans les cas de viol, d'inceste et de la vie de la mère. J'y crois fermement. Je pense que c'est une chose très importante. Il faut suivre son cœur. Lorsque vous ne croyez pas aux exceptions, je pense que c'est une question beaucoup plus difficile. Mais environ 82% des républicains croient aux exceptions. Et beaucoup d'entre eux changent d'avis, allant même plus loin. Je pense que l'avortement est devenu un problème beaucoup moins important. Je pense même qu'il va devenir un problème très mineur. Nous avons ramené cette question au niveau de chaque État et maintenant les États votent à ce sujet. Et franchement, certains votes sont très différents de ce que l'on aurait pu penser. Mais c'est l'électeur, le peuple, qui s'en occupe. Et vous savez, quand vous pensez aux radicaux, ce sont les démocrates les vrais radicaux dans ce domaine, parce qu'ils autorisent l'avortement au 8e, au 9e mois, et même après la naissance.
Voilà, donc des déclarations assez confuse par moment de Donald Trump. L'avortement après la naissance, il l'avait aussi dit lors du débat qu'il avait opposé à Kamala Harris à la télévision. Ludivine Gili, est-ce que ce discours, c'est parce que Donald Trump a compris ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire que le sujet était particulièrement délicat pour son parti ?
Oui, tout à fait. Depuis 2022, le sujet est extrêmement compliqué pour les Républicains. Les élections de mi-mandat de 2022 l'ont montré, et depuis qu'il est entré en campagne, Donald Trump essaie d'éviter autant qu'il le peut de se prononcer, ce qui l'amène parfois à dire tout et son contraire. Et quand il dit d'ailleurs « la situation maintenant de l'avortement a été renvoyée dans les États et les gens peuvent voter », c'est faire preuve d'un peu de mauvaise foi, parce que les partisans du droit à l'avortement dans une série d'États ont rassemblé des signatures pour mettre la question au vote, et les Républicains de ces États-là s'efforcent autant qu'ils peuvent de trouver toutes les procédures judiciaires possibles pour empêcher la question de venir au vote. Donc, Donald Trump, en appuyant sur ces arguments-là, en fait, fait une fois de plus, si j'ose dire, preuve de mauvaise foi.
Quand son épouse, Melania Trump, écrit dans ses mémoires parues la semaine dernière qu'elle est pour l'avortement, est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une stratégie de campagne pour aider son mari à élargir sa base électorale, et notamment auprès des femmes, ou est-ce qu'il s'agit d'un vrai positionnement personnel ?
C'est probablement les deux à la fois. Il est très possible que Melania Trump soit favorable au droit à l'avortement. Simplement, dans la mesure où cette prise de position publique est prise un mois avant l'élection, lors d'une élection dont on sait que la question de l'avortement sera importante, on a du mal à croire qu'il n'y a aucun lien avec la campagne et aucune tentative d'essayer de récupérer quelques électeurs républicains par ce biais.
Est-ce qu'on sait ce que représentent les anti-avortements au sein du Parti républicain comme proportion ?
Oui, alors on a toute une série d'enquêtes d'opinion qui donnent, selon la manière dont on pose les questions, des résultats différents. Mais en gros, au sein du Parti républicain, vous avez une minorité qui est autour de 20-30% qui est favorable à une interdiction totale du droit à l'avortement. Et l'ensemble, au sein du reste des républicains, vous avez des gradations en termes de position, mais qui sont pour une certaine dose d'accès au droit à l'avortement.
Ce qu'on a pu voir mis en place dans un certain nombre d'États. On a parlé des républicains, j'aimerais qu'on dise un mot des démocrates, parce que depuis quelque temps, les démocrates, mais aussi les mouvements dits pro-choice, ont mis en avant des figures de femmes jeunes, ayant et voulant des enfants, mais victimes de ces difficultés à avorter pendant des grossesses dont l'issue était pourtant connue, sans espoir de vie pour le bébé et à risque pour elle. C'est le cas notamment de Kate Cox, qui est devenue vraiment une figure aux États-Unis, et elle s'est exprimée à la convention démocrate au mois d'août dernier. Écoutez.
Je suis Kate Cox et j'adore être mère. J'ai deux beaux enfants et mon mari et moi avons toujours voulu en avoir un troisième. Mais lorsque je suis tombée enceinte, les médecins nous ont dit que notre bébé ne survivrait pas et que si je ne me faisais pas avorter, cela mettrait en péril une future grossesse. Mais Trump s'en moquait et à cause de ses interdictions d'avortement, j'ai dû fuir ma maison. Il n'y a rien de pro-famille dans les interdictions d'avorter. Il n'y a rien de pro-vie dans le fait de laisser les femmes souffrir et même mourir. Aujourd'hui, parce que j'ai trouvé un moyen d'accéder à l'avortement, je suis à nouveau enceinte. Mon bébé doit naître en janvier, juste à temps pour voir Kamala Harris prêter serment en tant que présidente des États-Unis.
Voilà, c'est vraiment une parole qu'on n'entendait pas forcément du côté démocrate. Pourquoi ce choix, Ludivine Gili, de donner la parole à ces femmes et de les mettre en avant ?
C'est extrêmement important. Dans ce genre de situation, sur ce genre de sujet, L'émotion est extrêmement forte et donc faire appel à des témoignages permet de marquer les esprits. Le gouverneur du Kentucky, qui est un démocrate, l'a fait lors de sa campagne de réélection en novembre 2023. Il faut rappeler que le Kentucky est un État extrêmement républicain. Et le gouverneur du Kentucky a fait appel à une jeune femme qui s'est retrouvée enceinte après avoir subi un inceste. Elle s'est exprimée dans des spots publicitaires en faveur du gouverneur démocrate et c'est un des éléments qui lui ont permis de remporter une campagne pour sa réélection dans un État extrêmement républicain. Donc on voit que ce sont des ressorts qui fonctionnent très bien avec l'électorat démocrate.
Et un sujet qui mobilise, on a parlé tout à l'heure des militants anti-avortement, il y a d'autres chantiers. En fait, on a l'impression que l'annulation de cet arrêt Roe v. Wade n'était pas un aboutissement, mais plutôt un début, puisqu'il s'attaque aujourd'hui à un certain nombre d'autres sujets, la pilule abortive, la contraception même, ou la PMA. D'ailleurs, là encore, Donald Trump a fait un pas de côté au début du mois, puisque lui a promis de rendre les fécondations in vitro gratuites s'il était élu en novembre. Quelles sont les chances de succès de ces militants, selon vous, d'aller encore plus loin ?
Elles ne sont pas nulles dans la mesure où, comme on l'a vu, sur la question de l'avortement, c'est la Cour suprême qui a permis ce recul pour les droits des femmes. Dans le cadre de la contraception, par exemple, il est tout à fait possible que la Cour suprême, qui est aujourd'hui très largement dominée par des ultra-conservateurs, décide de rendre un arrêt qui interdit la contraception. Ce serait aller extrêmement loin, mais ça n'est pas inenvisageable aujourd'hui, vu l'équilibre des forces au sein de la Cour suprême. Et de la même manière, concernant potentiellement la pilule abortive ou concernant toute question liée à l'accès à l'avortement.
Merci beaucoup Ludovine Gilly d'avoir été en ligne avec nous pour parler donc de ce sujet crucial dans la campagne, l'avortement. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Et puis je redonne aussi le titre de votre livre, La révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie. Ce livre a été publié il y a 2 ans aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup. Et puis la campagne électorale est à suivre évidemment sur RFI.fr, sur notre site. Et puis demain, sur notre antenne, dans notre rendez-vous hebdomadaire avec notre correspondant à Washington.
RFI, la radio del mundo.
Reportage maintenant en Bolivie, où la capitale célèbre cette année un moyen de transport bien particulier, devenu une attraction touristique, c'est le téléphérique. 10 ans qu'il existe, il y a 10 lignes aujourd'hui, un réseau de 33 kilomètres, le plus grand du monde. Et en plus d'être efficace, Nils Sabin, le téléphérique a aussi l'avantage d'être bon marché et silencieux.
À La Paz, on prend le téléphérique comme on prendrait le métro dans d'autres grandes villes. Depuis 2014, les habitants peuvent choisir la voie des airs plutôt que les innombrables minibus qui sillonnent la ville. Pour beaucoup, la principale prouesse du téléphérique est de relier en moins d'un quart d'heure La Paz et sa voisine El Alto, située 500 mètres plus haut.
Je ne sais pas ce que nous ferions sans téléphérique.
Ramiro, un habitant du centre de La Paz.
Moi, je l'utilise constamment. Par exemple, là, je vais amener un colis à la station de bus d'El Alto, mais je descends aussi acheter du matériel à La Paz. Donc, généralement, j'utilise la ligne mauve et la ligne argentée du téléphérique.
La ligne mauve est de très loin la plus utilisée du réseau. Elle démarre à proximité de l'aéroport d'El Alto pour arriver en plein centre-ville de La Paz. Chaque matin, de longues files se forment à chaque station et les employés font entrer les usagers 10 par 10 dans les cabines. Dans l'une d'entre elles se trouve Juan, qui monte à El Alto.
L'un des avantages, c'est que les cabines arrivent en continu et c'est aussi plus sûr que les minibus où tu peux être victime de voleurs.
Un sentiment partagé par Ramiro qui transporte son colis.
Dans un minibus, tu ne peux pas utiliser ton téléphone parce qu'à tout moment, ils peuvent te le voler. Il y a même des passagers qui montent et hop, ils disparaissent avec ton portable.
Mais la sécurité des usagers, ce n'est pas seulement l'absence de pickpocket dans le téléphérique, c'est aussi et surtout la fin des accidents de la route, comme l'explique Nathalie.
C'est plus sûr parce que t'évites les accidents. Beaucoup de voitures et de bus qui circulent à La Paz sont en très mauvais état, donc c'est dangereux. Par exemple, dans les descentes, il arrive que les freins ne fonctionnent pas bien. Donc le téléphérique, c'est plus sûr.
L'étudiante utilise le téléphérique tous les jours, que ce soit pour se rendre à l'université publique del Alto, mais aussi le week-end pour aller dans le sud de La Paz. Ce quartier aisé aux nombreux centres commerciaux se trouve désormais à une petite demi-heure de téléphérique del Alto. Le rapprochement de ces deux zones socialement très différentes est l'un des symboles de la réussite du téléphérique. Quelques stations plus loin, Emiliana s'installe dans une cabine aidée par un employé de la ligne. Pour cette non-voyante, l'accessibilité de ce moyen de transport est un véritable avantage.
Je l'utilise du lundi au vendredi et parfois même le samedi quand j'en ai besoin. La différence avec les minibus, c'est confortable et on vient t'aider à la station.
Dans une ville à la circulation chaotique et très peu pensée pour les personnes à mobilité réduite, le téléphérique est un îlot d'accessibilité. Ascenseurs, priorité aux personnes âgées ou en situation de handicap, ou encore personnel plutôt nombreux dans les stations, l'entreprise publique fait des efforts évidents. Même si, selon Emiliana, la qualité du service baisse ces derniers temps.
Avant, c'était encore mieux. Il y avait une personne directement affectée pour nous aider. Quand elle voyait une personne âgée ou avec un handicap physique ou visuel, elle venait directement. Maintenant, c'est la sécurité qui fait ce travail.
Mais les cabines remplies et les louanges des usagers ne doivent pas faire oublier qu'aujourd'hui, pour l'immense majorité des déplacements à La Paz et à El Alto, le minibus est encore roi, avec 570 lignes de minibus rien qu'à La Paz, contre seulement 10 de téléphériques. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Alors que les négociations doivent reprendre demain, le leader de la contestation n'en démord pas. Les prix doivent baisser sur tous les produits alimentaires.
Avant de l'écouter, je vous propose de revenir à samedi dernier. Constat d'échec, après 9 heures de négociations, le gros point de blocage, le nombre de produits concernés par une éventuelle baisse des prix. Pour Robert Parfaite, PDG du groupe de grande distribution du même nom, exiger des réductions significatives de prix sur tout le secteur alimentaire, ce n'est ni réaliste ni raisonnable. Écoutez-le au micro d'Alain Livory.
On est en train de travailler sur un grand nombre de produits. En moyenne, on serait entre 15, il y aurait entre 25% de réduction et 15%. Donc ça veut dire qu'un produit qui est à 40%, on le ramènerait 40 moins 25 à 15% de plus que la métropole. Mais on ne peut pas faire tous les produits. Personne ne pourra suivre. C'est beaucoup trop.
Impossible, vous avez dit impossible. Eh bien, invité ce matin de La Première Martinique, le leader de la contestation, Rodrigue Petitot, persiste et signe. Ça se fera, dit-il. Il répondait, et le leader du RPRAC répondait aux questions de Grégory Gabour.
Notre problème, ce n'est pas une partie de l'alimentaire. Notre problème en Martinique, c'est tout l'alimentaire.
Mais tous s'accordent à dire que ce n'est pas possible.
Non, tous s'accordent à vouloir croire que ce n'est pas possible. Il y a eu des choses qui étaient beaucoup plus impossibles, ça nous a été imposé. Pourquoi là, ce serait impossible? Lorsqu'ils ont décidé de prendre les impôts à la source, ça paraissait impossible, hein, pourtant ils l'ont fait. Pourquoi au moment de nous démontrer qu'on a le droit de se nourrir comme tout le monde respectablement, il y a toujours une cause pour montrer que c'est impossible? C'est impossible dans la tête. Dans les faits, si le gouvernement prend ses responsabilités, que la grande distribution prenne leurs responsabilités, ce sera fait.
Pour vous, c'est le ministre des Outre-mer qui a la clé? Il doit venir impérativement en Martinique et très rapidement.
Il semble que ce soit ça. Dire seulement le cassoulet et la sardine et puis on va voir pour les céréales après. Mais non, il faut arrêter. C'est tout l'alimentaire.
Et donc vous seriez prêt à faire durer ce conflit bien plusieurs mois s'il le faut?
Je ne suis pas prêt à faire durer le conflit. Je suis prêt à sortir du conflit. Ils sont prêts à faire durer le conflit. C'est à eux qu'il faut demander. Parce que ce qu'on demande là, c'est légitime. Je répète, je le redis à chaque fois, nous n'aurions même pas dû être dans ce conflit. Pourquoi nous dire que nous sommes Français et nous imposer des prix aussi criminels? Nous n'aurions pas dû être dans ce conflit. Aujourd'hui, nous sommes regardés comme les coupables alors que nous sommes les victimes. C'est bizarre ça quand même.
Rodrigue Petitot, leader du RPRAC, ce matin sur La Première Martinique, reprise des négociations, demain mardi. Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand, merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi se termine pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. Rendez-vous demain 11h temps universel, mais vous restez avec nous. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Bonne journée à tous.
RFI, la sélection du mois.
Aya Nakamura.
J'ai compris, tu te prends pour mon père. Avec toi, c'est le monde à l'enfer. Si je dis les choses, je me suis fâché. Moi, j'ai pas signé pour ça.
Tellement où t'es pas plaisir à faire mon poil, mais elle aime danger.
Lissina is Jean.
Si un jour on rencontre ma chance, même si la vont changer.
RFI Musique.
Mon poil, mais elle aime danger.